Bonsoir. Des œufs contaminés par un insecticide, c'est le nouveau scandale sanitaire dont nous vous parlons depuis plusieurs jours. 17 pays de l'Union européenne ont été touchés, dont la France. À l'origine de cette affaire, je dirais, comme d'habitude, une arnaque, un produit toxique mélangé à un produit naturel pour nettoyer les poulaillers. Et tout cela pour faire gagner beaucoup d'argent à des industriels peu scrupuleux. Alors à chaque fois, les discours se veulent rassurants. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que le fipronil, l'insecticide en question, est peu dangereux pour l'homme. Seulement voilà, l'affaire inquiète à juste titre les consommateurs. Après les lasagnes à la viande de cheval ou encore les steaks hachés avariés, pour ne citer que ces deux affaires récentes, on se demande bien si l'on peut avoir confiance dans le contenu de nos assiettes. Pour réagir, posez vos questions, il y a bien évidemment les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, avec le mot-clé Telson, et bien sûr notre standard, le 01 45 24 7000.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Et nos invités nous ont rejoints dans ce studio, ils vont répondre à toutes vos questions. Ingrid Kragel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'information de l'Association européenne de consommateurs Foodwatch.
Oui.
Bruno Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, aujourd'hui consultant spécialiste des questions d'agriculture et d'alimentation. Et enfin, au téléphone, André Sicolella, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes toxicologue et président du réseau Environnement et Santé.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Et avant de prendre notre premier appel, je voudrais qu'on s'entende sur les mots, car les mots ont un sens dans cette affaire. Est-ce qu'il s'agit dans cette histoire d'œufs et d'insecticides, de scandales sanitaires, de malencontreuses erreurs dans la formulation d'un produit, de fraude, d'escroquerie? Je parlais tout à l'heure d'arnaque, Ingrid Kragel.
C'est plus qu'une arnaque, c'est une fraude d'une ampleur incroyable, puisqu'on voit que ça touche également des pays hors Europe. C'est une fraude qui peut être ramenée à d'autres pratiques frauduleuses. On sait que malheureusement, peut-être, le scandale du fipronil n'est que l'arbre qui cache la forêt.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que chaque année, Europol et Interpol collaborent avec des dizaines de pays. On va peut-être pas creuser cet exemple tout de suite, on y reviendra plus tard, mais chaque année, pendant un laps de temps très court, je crois que c'est entre 1 et 3 mois, ces autorités font la mainmise, la saisie d'aliments frauduleux. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le fipronil qui entre en France ou en Europe, mais des tonnes et des tonnes et des litres d'aliments qui empruntent des circuits de crimes organisés. Donc voilà, il y a un vrai problème de fraude, effectivement.
Bruno Parmentier, votre sentiment là-dessus, fraude, arnaque?
Oui, c'est une fraude. En fait, les poules ont des poux. Mais tout le monde, toutes les poules ont des poux. Hein, qu'elles soient 5, 50 000 ou 200 000, les poules ont des poux. Donc les éleveurs de poules ont envie d'éliminer les poux. Et il y a un produit qui est très bon pour éliminer les poux, c'est le fipronil. Et d'ailleurs, il est en vente libre partout, parce qu'en fait, on a le droit de l'utiliser sur ses chiens et ses chats. Donc actuellement, il y a beaucoup de chiens et de chats qui ont du fipronil sur la peau, et puis bah, les bébés les caressent, et puis ils sucent leurs mains et ils sucent du fipronil. Mais c'est interdit pour les animaux de chair qu'on mange. Bon, et donc, il y a une boîte, une start-up on pourrait dire, qui a été chercher frauduleusement des produits interdits, si je bien comprends, en Roumanie, qui a mélangé, et qui a été voir les éleveurs de poules en disant bah, « j'ai un produit qui est meilleur ». Voilà, sans dire que dedans, il avait mis un produit interdit. Alors, bah, j'imagine, il y a un premier éleveur qui a dit « bah ouais, il est pas mal ce produit, tiens oui, ça éradique les poux ». Donc, bah, il a dit à son copain bah, « vous devriez vous fournir chez un tel ». Bon, et ben, donc on a mis ce produit dans les poulaillers. Ben, il y avait des poules. Les poules ont pendu, elles ont absorbé ce produit, et puis, quelque part, une partie du produit est partie sur les œufs. Mais il faut se rendre compte que l'industrie de l'œuf, c'est des très grandes quantités. On consomme 40 millions d'œufs par an, par jour, en France, 40 millions.
Et c'est 216 œufs par personne,
voilà,
et par an en
216,
France.
220, etc. Mm-hmm. Bon, et donc, si vous voulez une image, une famille française de 4 personnes, elle a 3 poules pondeuses en permanence qui pondent, voilà. Et donc, en France, on en importe très peu, parce que on produit 15 milliards d'œufs et on mange 15 milliards d'œufs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est autonome, parce qu'on vend un peu à l'extérieur, on achète un peu à l'extérieur. Donc, quand on voit des chiffres par dizaines de milliers, il faut toujours garder la mesure. On mange 40 millions d'œufs, donc c'est normal. L'œuf, c'est des quantités énormes. À partir du moment où il y a des poulaillers qui ont été désinfectés avec ce produit frauduleux, il y a forcément des centaines de milliers d'œufs qui circulent. Mais relativement peu en France, parce que nous, on mange essentiellement nos œufs à nous. Et que, si j'ai bien compris, jusque-là, c'est pas nos élevages qui ont acheté ce produit. C'est des élevages en Belgique et en Hollande.
Alors, André Cicolella, vous êtes, je rappelle, toxicologue. Bruno Parmentier disait tout à l'heure, oui, mais enfin bon, le fipronil, qui d'ailleurs, en soi, est un produit qu'on retrouve dans les colliers pour chiens et chats, c'est pas si problématique que ça. Vous, le toxicologue, vous en pensez quoi?
C'est juste le problème. Moi, je trouve déjà une première contradiction. Comment peut-on interdire ce produit pour les animaux destinés effectivement à l'alimentation humaine et pour les animaux qui sont des animaux domestiques? Donc, il y a une voie de contamination de l'homme, de l'humain, et y compris donc les plus jeunes enfants, hein, qui est l'animal domestique. Et donc, on ne peut pas séparer, évidemment, des produits comme fipronil, hein, il y a quand même le nom est écrit, hein, fipronil ou frontline, sont des produits qui utilisent du fipronil. Donc là, il y a une voie de contamination qui me semble tout à fait anormale, parce que ce fipronil est un perturbateur endocrinien. On sait, je crois que maintenant c'est assez clair pour beaucoup de monde, hein, les perturbateurs endocriniens agissent avec un mode d'action qui est particulier, qui ne respecte pas la relation dose effet linéaire sur lequel repose l'essentiel de la réglementation. Quand on me dit il y a une dose journalière admissible, on est en dessous, etc. Oui, mais enfin c'est la vieille toxicologie, ça. C'est vrai en partie, c'est pas totalement désuet, mais ça l'est quand même largement pour les perturbateurs endocriniens. Ce fipronil a été classé cancérogène par l'Agence de protection de l'environnement il y a une vingtaine d'années, cancérogène possible. Alors on nous dit, ah oui, mais c'est pas le bon mécanisme, enfin bon, je veux bien, mais il y a d'autres études qui montrent sur d'autres, alors je vais pas rentrer dans l'aspect technique, hein, de des modalités d'action, qui montrent effectivement que c'est un perturbateur endocrinien. Le site TEDx, qui était une référence dans ce domaine, le classe perturbateur endocrinien. Le lien avec le cancer de la thyroïde devrait être, à mon avis, regardé de plus près. Il y a l'effet neurotoxique, bien évidemment, par principe, puisque c'est un neurotoxique. Mais l'effet, effectivement, le lien avec le cancer de la thyroïde est un point important, parce que nous avons, c'est le lien plus général qu'il faut avoir avec l'exposition à ces produits, une croissance des maladies chroniques, notamment du cancer de la thyroïde. En une génération, ce taux a été multiplié par 5. Par 5. Donc ça vient bien de quelque part.
Alors on va pas...
Le fipronil.
Voilà, le fipronil, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un des éléments de cette affaire, parce qu'en fait, on a bien compris qu'il y avait un mélange qui a été fait dans une entreprise entre plusieurs produits, un produit naturel et ce produit-ci. On a vendu tout comme des produits, je ne vais pas dire bio, mais presque. Alors moi, je voudrais qu'on aille tout de suite au standard du téléphone sonne, où Damien nous attend, qui est à Saint-Sanson. Damien, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez la parole, bienvenue sur le téléphone sonne.
Merci. Donc déjà, merci beaucoup de prendre mon appel et puis à tous les invités d'y répondre. Alors moi, je suis jeune agriculteur en Mayenne. Et puis j'avais une interrogation et après une petite remarque pour les consommateurs. Alors la question, c'est que moi je me demande comment c'est possible qu'il y ait des centaines, voire des milliers de litres de produits comme le fipronil qui soient dispersés dans les élevages ou dans la nature comme ça, en sachant, enfin, et en Europe, hein, dans le cadre de la PAC, alors qu'on est contrôlé, plus que contrôlé au niveau de tous les produits, donc au niveau des produits phyto, au niveau des antibiotiques et tout ça, on a des cahiers à remplir avec les dates précises, les références de produits, où est-ce qu'on les a eus, les numéros de lot, tout, on est contrôlé, ils regardent, ils peuvent dire au gramme près ce qu'on a épandu à l'hectare et quel jour. Et donc, nous, on fait des efforts pour faire ça, et j'aimerais savoir comment c'est possible qu'un produit qui est interdit comme ça ait été introduit en grosse quantité dans des élevages dans l'Europe. Quoi.
Alors, on va déjà, oui, je comprends bien, on va essayer de répondre déjà à cette question. Ça donne quand même l'impression d'une gigantesque pagaille, parce que les agriculteurs doivent tout noter, puis là, on a des produits qui se baladent dans la nature sans aucun contrôle.
Bah écoutez, moi j'ai pas. Bonsoir Damien, j'ai pas la réponse précise. Par contre, ce qu'on peut suspecter, c'est qu'effectivement, il y a eu un vrai souci de traçabilité. S'il est interdit et qu'il se retrouve dans un pesticide et asperge de manière illégale le poulailler, il y a eu un vrai problème de traçabilité, effectivement. Alors, on sait que des éleveurs se sont posés en victime depuis le début du débat en France. Nous, chez Foodwatch, on se demande un petit peu si il va pas falloir déplacer un peu les projecteurs et poser la question aussi des contrôles systématiques. Puisque ce produit est interdit, on peut suspecter qu'il n'ait pas été vérifié, qu'on n'ait pas cherché à vérifier s'il était présent, effectivement, de manière illégale. Donc voilà, peut-être des manquements au niveau des contrôles et la nécessité de renforcer la quête de substances toxiques.
Et puis des choses étonnantes, on sait qu'il y a un problème, mais les autorités belges, les enquêteurs belges, pour maintenir le secret, entre guillemets, sur leur enquête, retiennent l'information, ne la communiquent pas aux autres États membres, ce qui est quand même hallucinant.
Ça remonte à plus loin. Avant la Belgique, il faut savoir qu'il y avait l'agence hollandaise quand même qui est incriminée. Nous, on avait vu des documents de la NVWA, donc l'agence des Pays-Bas, qui confirme noir sur blanc qu'ils savaient depuis novembre 2016. Ils ont été alertés par un lanceur d'alerte, novembre 2016. Par contre, ils ont jugé que finalement, ça ne menaçait pas la santé et que ça n'appelait pas de réaction de leur part. Et là, j'en viens à ce qui se passe actuellement en France. On entend quand même énormément notre ministre de l'Agriculture qui dit le danger pour la santé est écarté. Donc on peut se poser la question des mesures qui sont prises réellement. D'où notre appel à la totale transparence. Qu'est-ce qui est mis en place? Quels sont les contrôles? Et puis surtout, quels sont les résultats de ces contrôles?
Bruno Parmentier, cette traçabilité, c'est on pourrait parler de la sacro-sainte traçabilité depuis quasiment l'affaire de la vache folle, 96. Elle en prend un coup quand même. On n'arrive pas à savoir. On a des brides d'informations du ministère de l'Agriculture sur telle ou telle entreprise qui aurait reçu des lots de produits, que ce soit des œufs, que ce soit des produits liquides.
Alors, c'est pas sérieux. Il y a les règles, et puis il y a l'application des règles. Et quand il y a des règles, c'est vieux comme le monde, il y a toujours des gens qui cherchent à tricher. Alors, il y a une première tricherie, c'est une entreprise qui se crée et qui invente un nouveau produit et qui met dedans des produits interdits, pas vu, pas pris, et qui le vend. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est une nouvelle entreprise, c'est un nouveau produit. Comment est-ce que ce produit n'est pas contrôlé? Donc ça, j'imagine, il faut regarder ça. C'est pas un ancien produit, etc. C'est une nouvelle boîte qui se lance, qui crée des nouveaux produits, qui démarche les paysans et qui disent « j'ai ce nouveau produit ». Alors, l'éleveur, lui, il dit « la boîte, c'est une boîte qui a pignon sur eux ». J'imagine qu'il était contrôlé. Et puis, il y a une deuxième perte de confiance, qui est que il y a des pays qui mangent leurs œufs et il y a des pays qui produisent beaucoup d'œufs et qui les exportent. Par exemple, la Hollande et la Belgique. Et donc, ensuite, il y a un contrôleur qui dit, tiens, il y a des traces de fipronil, et dans un pays qui exporte beaucoup, il est humain, et il dit, écoutez, on va régler ça ensemble, on va quand même pas tuer le commerce.
Ça existe encore, ce genre de réaction?
Et donc, la vision du pays exportateur qui a pas envie de tuer le commerce, il accélère pas les choses, alors que le pays importateur qui a envie, évidemment, de protéger ses consommateurs, il dit, c'est pas normal. Donc, il peut pas y avoir de confiance en Europe, si on s'aperçoit qu'il y a un pays européen qui garde une information pendant 6 mois, alors que c'est des œufs qui sont exportés dans toute l'Europe. Donc, mais ça se règle pas que par des règles. C'est des hommes et des femmes bien concrets qui décident ou ne décident pas d'appliquer les règles ou de traîner les pieds.
Alors on a un mail de Mireille qui dit « Je trouve vraiment scandaleux que le ministère de l'Agriculture français ne veuille pas dévoiler les aliments retirés du commerce. D'ailleurs, le sont-ils? Et qu'en est-il de ceux déjà achetés ?» Vous parliez tout à l'heure du ministère de l'Agriculture. Quelles sont vos relations, Ingrid Kagel, avec le ministère? Vous avez des contacts sur cette affaire?
Oui, on les a interpellés dès lundi matin puisqu'on a vu les développements le week-end dernier. Donc il y a 10 jours maintenant, on a contacté la DGAL qui nous a...
La Direction Générale de l'Alimentation.
Oui, excusez-moi. Direction générale
du ministère, voilà.
C'est ça, qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui est en charge de ces questions quand il s'agit de potentiellement questions sanitaires et puis quand ça concerne les animaux que nous consommons, qui nous a confirmé immédiatement que effectivement, il n'était pas exclu que des œufs contaminés aient été utilisés par l'industrie agroalimentaire. Ça, je cite, c'était lundi dernier. Donc très très vite, nous on les a interpellés, on a cherché à avoir plus d'informations, à lundi matin pour l'instant, en tout cas il y a 10 jours. La France n'était pas concernée, je le rappelle quand même. Et puis on a vu au fil des heures, dans la journée de lundi, le ministère sortir un peu de l'ombre et puis enfin avouer qu'il y avait énormément de 2. Et puis au début 2, puis 3, je pense, entreprises qui étaient concernées. Donc voilà, nos relations sont bonnes. On peut penser que tout le monde est mobilisé, tout le monde est sur le pont. Par contre, on les presse quand même d'être beaucoup plus transparents. Bonne, d'accord, mais il faudrait maintenant jouer cette carte de la transparence. Je suis d'accord avec Mireille, c'est absolument scandaleux qu'on ne nous dise pas toute la vérité.
Allez, on va à Lyon retrouver Irène. Irène, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue et nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Je vais être brève. Donc, les scientifiques nous assurent que les préparations qui auraient utilisé les œufs contaminés au fipronil sont inoffensives, puisque si j'ai bien compris, c'est plutôt ces œufs ont été utilisés pour des préparations culinaires. Mais qu'en est-il du cocktail que ces pesticides additionnés avec les autres résidus de pesticides qu'on consomme tous les jours et autres perturbateurs endocriniens, je viens d'apprendre justement que le fipronil ce soir était un perturbateur endocrinien, et donc tous ces résidus que nous consommons tous les jours, quotidiennement, sans même le savoir. Alors, parce que le fipronil tout seul, je veux bien qu'il soit inoffensif, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que lui qu'on mange.
André Sicolella va vous répondre.
Oui, vous avez tout à fait raison. On vit dans une soupe chimique. Hein. Et là, je faisais référence aux connaissances que l'on a qui permettent de classer ce fipronil comme perturbateur endocrinien. Son mode d'action, il a un mode d'action qui est aussi celui de 15 autres pesticides. Voilà. Donc on va retrouver effectivement comme à la fois dans les utilisations de herbicides, insecticides, etc. Donc qui sont en partie, qu'on va retrouver ici en partie dans l'alimentation notamment. Et donc là, on n'a pas les éléments pour dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec cet effet cocktail, notamment sur les effets sur la thyroïde. Donc c'est pour ça qu'il faut être, à partir du moment où on a une donnée expérimentale comme celle-là, on ne peut pas continuer de dire il n'y a aucun problème. Et continue à regarder le problème par le petit bout de la lorgnette en disant il y a le fipronil et le fipronil tout seul. Non, il est dans un contexte général, il faut regarder ça.
Allez, on va dans le Nord maintenant retrouver Marc. Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci, bonsoir à tous. Donc dans cette affaire des œufs contaminés, avant cette émission, j'avais surtout entendu stigmatiser les élevages industriels et la grande distribution, et je trouvais curieux qu'on ne parle pas du fabricant du fipronil, parce que premièrement, le fabricant sait à qui il le vend, et il sait par tout son réseau technico-commercial quel usage est fait de son produit. Hein, parce que le fipronil, c'est un produit Bayer à l'origine. Et en France, récemment, il a été vendu par BASF et actuellement, il est vendu par une société de la région de Lyon. Donc vous voyez, c'est assez nébuleux. Dans la chimie, comme partout, on pratique un peu la sous-traitance, on se vend des brevets, etc. Bon, je ne sais pas, avec les informations que j'ai, moi j'ai un index phytosanitaire sous les yeux, je ne sais pas par qui il est fabriqué en France. En France, il est certain qu'il n'est autorisé que pour le traitement des locaux de stockage et aussi pour la lutte contre les fourmis, par traitement de sol. Bon, alors deuxièmement, on parlait de risque infime du fipronil. Or, comme pour tout pesticide, ni l'Europe ni la France ne font l'évaluation des risques sanitaires des pesticides. On se base en fait sur le dossier toxicologique qui est présenté par le fabricant lorsqu'il demande l'autorisation de mise en marché d'un produit. Autrement dit, le contrôlé est en même temps le contrôleur. Or, je n'ai aucune raison de penser que les dirigeants de l'industrie chimique allemande soient plus vertueux que leurs confrères de l'industrie automobile. Et l'histoire a même prouvé le contraire.
Alors Marc, ce que je voudrais quand même qu'on essaie de voir avec nos invités et qu'on ne tombe pas peut-être dans le travers de faire le procès de ce produit qui finalement lui a été incorporé par des magouilles, par des arnaques, voilà, ça aurait pu être n'importe quel autre produit chimique, il se trouve que celui-là il fonctionnait plutôt bien pour l'effet qui était attendu, mais ce qui est quand même fou, c'est qu'on a l'impression que les produits circulent sans aucun problème. Alors, on nous a parlé pendant des années de règles sur la circulation des produits chimiques, on a parlé de plans, je crois de mémoire le plan éco-phyto où il ne devait plus y avoir de certain nombre de produits, puis tout ça circule, ça continue à circuler.
Il y a en plus, effectivement, il y a une petite remarque peut-être pour Marc. BASF a annoncé cette semaine qu'ils arrêtaient la commercialisation du fipronil. Donc voilà, vous serez peut-être intéressé de le savoir. Concernant tous ces produits qui circulent allègrement, effectivement, on sait par exemple que des pesticides interdits en France sont allègrement utilisés en Espagne. L'Espagne, c'est là, c'est nos frontières, là où potentiellement des agriculteurs peuvent se fournir en catimini, peut-être pour leurs fruits et légumes. Donc effectivement, il y a un souci d'harmonisation au niveau européen. Et puis, il y a une pression énorme des lobbies, comme l'a souligné l'auditeur. Les lobbies sont très, très, très impliqués dans les politiques de désinformation et produisent eux-mêmes leurs propres études. Ça ne veut pas dire qu'aucune est... d'est à prendre en compte, mais il faut savoir qu'en France, c'est l'ANSES qui est responsable de la mise sur le marché des nouveaux produits et des nouveaux pesticides. Donc il y a quand même des autorités qui se mêlent de vérifier tout ça, et je pense que le débat va être reposé, va être remis sur la table avec ce nouveau scandale du fipronil.
André Sicolella.
Oui, le problème de la réglementation, c'est qu'elle repose sur des expérimentations animales, notamment, mais substance par substance. Personne ne s'occupe effectivement de voir ce que donne ce mélange auquel on est exposé. Je voudrais revenir sur un point qui moi je trouve choquant, c'est l'autorisation dans le traitement anti-puce des animaux domestiques. Parce que c'est pas seulement l'animal domestique, quand on a un chat ou un chien, généralement on le caresse. Et le traitement est efficace sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, parce qu'effectivement, la substance est retenue dans les graisses notamment, et ça reste effectivement sur la peau de l'animal. Donc, cette contamination-là, on se soucie effectivement de la contamination par les œufs, mais il faut se poser la question de la contamination qui se fait par cette... tout à fait autorisée, là, hein, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de tricherie, là. Et c'est, à mon avis, le principal problème, d'ailleurs, aujourd'hui.
Bruno Parmentier, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vous qui expliquiez tout à l'heure qu'on utilisait ce type de produit dans les colliers pour chiens et chats. On est plus soucieux de notre santé que la santé de nos chats et nos chats. Je croyais qu'on était très, très inquiets de l'état de santé de nos chiens et nos chats.
Écoutez, on est aussi très embêtés quand les chats et les chiens ont des tiques, des poux et des puces. Hein. Et donc, c'est notre contradiction. Je veux dire, dans la biodiversité, il y a aussi les poux, les tiques, les puces, les moustiques, etc. Et quelque part, on a souvent un peu un comportement schizophrène. On veut pas des produits chimiques, mais quand on a des puces ou des moustiques, on achète le pchit. Et quand votre chien a des poux, eh ben vous achetez un collier pour chien. Mais en fait, tout ça... c'est des produits qui ont été faits pour tuer des animaux, pas les hommes, mais pour tuer des animaux. C'est pas des produits anodins. Et souvent, d'ailleurs, celui qui proteste beaucoup contre ce qu'il y a dans la nourriture, quand il a des pucerons sur ses rosiers, ça y va, etc. Donc on a tous nos contradictions. Et cette biodiversité-là, elle nous embête. On a envie qu'elle n'existe pas. Malheureusement, le poux existe. Et les poules ont des poux.
Allez, on va à Romagne retrouver Christophe. Christophe, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, nous vous écoutons.
Merci d'avoir pris mon appel. J'entendais toutes ces interventions et je me pose la question de l'alimentation humaine en général. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas l'occasion de se poser la question, de dire mais qu'est-ce qu'on veut manger demain et quelle filière valoriser? Et je me pose la question justement de la valorisation des filières courtes. À titre d'anecdote, je suis allé sur mon marché tranquillement samedi matin et j'ai voulu acheter à mon petit producteur des œufs. Et il me dit, j'ai été dévalisé. On m'a pris 2 douzaines, 3 douzaines. Donc les gens sont allés voir les petits producteurs. Et bon, j'en ai plus pour moi. Et quand je discute avec lui, il me dit, oui, ben actuellement, nous, petits producteurs, on nous met tellement de normes européennes que demain, on ne pourra plus exister. C'est-à-dire, ce monsieur a une petite agriculture, du moins, a produit des poules, des œufs. Et il me dit, ben voilà, quand des gens comme l'ANSES ou des organismes sanitaires viennent les voir, dis-moi, vous savez, ben il faudrait, vous avez un camion qui rentre chez vous pour livrer des semences, ah ben il faudrait que vous ayez un truc pour laver les camions qui rentrent. Les visiteurs qui viennent chez vous, il faudrait qu'il y ait un parking extérieur. Vous avez des poules qui sont en plein air, et on sait que ces œufs sont fantastiques, et moi je sais que je prends ces produits-là et c'est très bon. Et on me dit, voilà, mais maintenant par rapport au risque de grippe aviaire, il faudrait que vous ayez des filets, que vous ayez des sas. Et donc cette personne me dit, je ne pourrai pas revendre mon exploitation. Le jour où je suis à la retraite, un jeune qui veut s'installer et faire de la filière courte, ça lui coûtera une fortune. Alors là, je vous pose la question, mais est-ce que c'est pas l'occasion de mettre tout en table rase, et notamment par rapport aux soucis de santé humaine et de nutrition?
Alors justement, il y a de nombreux mails qui arrivent également ce soir ici à France Inter. Celui de Patrick qui dit favoriser les productions locales ne serait-il pas un gage de qualité? On en a d'autres aussi de Laurence qui dit arrêter la production industrielle. Est-ce que c'est la solution, ça, Bruno Parmentier, de dire allez, on passe tout au bio? Et puis d'ailleurs, ce qui est à peu près le cas pour les producteurs d'œufs, maintenant on a déjà une phase intermédiaire.
Enfin, on a arrêté 50 000 œufs bio, hein, qui sont arrivés chez nous. Donc, faut pas croire. Les poules bio, elles ont aussi des poux. Et les éleveurs bio, ils sont aussi embêtés par les poux. Et il n'y a jamais de solution totale. Et il faut toujours se rendre compte des grands chiffres. C'est très bien le petit producteur à côté de chez soi. La France consomme, elle toute seule, 40 millions d'œufs par jour. Voilà. Donc c'est pas uniquement des petits élevages de 20 ou de 100 poules, c'est forcément des gros élevages. Et puis, rien n'est jamais simple, par exemple avec la grippe aviaire. Bon, les canards du sud-ouest, ils étaient dehors. Mais comme ils étaient dehors, il y a les canards migrateurs qui arrivent, et ben pendant 6 mois, on a dû éliminer tous les canards. En revanche, les canards qui sortaient pas, qui étaient dedans, ceux-là, on les a gardés parce qu'ils étaient pas en contact avec les... Donc, pour les poules, par exemple, c'est très bien, les poules qui est au sol. Mais quand le sol est sec, la poule, elle ne cesse de gratter et elle vit dans une poussière permanente avec de la poussière et des excréments de poules. Donc, de toute façon, curieusement par rapport à ça, le truc aseptisé, qui est très mauvais pour l'animal, on va dire, pour le bien-être animal, qui est la cage métallique, etc., c'est plutôt plus sain que la poussière remuée par la poule. Donc, rien n'est jamais complètement simple. Et nous mangeons 40 millions d'œufs par jour. Et quelque part, on demande aux producteurs, alors qu'ils soient locaux, c'est très bien, etc. Mais enfin, 40 millions, c'est beaucoup. C'est pas 2-3 poules.
André Sicolella.
Oui, la question qui est posée, mais c'est l'enjeu des états généraux de l'alimentation, et ça tombe bien, enfin, entre guillemets, cette affaire tombe bien, si on peut dire, pour expliquer effectivement qu'il faut changer de modèle. Vous voyez, la question des perturbateurs endocriniens, 80% des perturbateurs endocriniens viennent de l'alimentation. C'est cette contamination, comme par les pesticides notamment, par des produits de ce type, par des produits comme le bisphénol, par exemple, hein, qui était effectivement... En France, on a réussi à obtenir l'interdiction des boîtes de conserve, mais au niveau européen, les Européens continuent de manger des produits contaminés par leurs boîtes de conserve. Donc on a là un problème, un modèle alimentaire qui contamine la population à des niveaux effectivement qui induisent aujourd'hui une grande partie de l'explication de la croissance des maladies chroniques. L'enjeu de changer l'alimentation aussi, c'est cette alimentation. Quand on parle de consommer local, c'est parce qu'effectivement le modèle effectivement dominant aujourd'hui, c'est un modèle qui ultra transforme, l'alimentation ultra transformée, qui produit une alimentation qui n'est pas saine parce qu'elle perd les micronutriments. Et là, l'enjeu sanitaire est considérable. L'enjeu, notamment la diminution de la consommation de fibres, aujourd'hui, se traduit par une grande partie d'explication de la croissance des cancers du type colorectal. Donc, il faut changer de modèle alimentaire aujourd'hui. Cette idée de nourriture aseptisée, très bien. Le problème est résolu. Il n'y a quasiment plus de mortalité ou de problèmes liés aux problèmes biologiques. Le problème, c'est l'intoxication par les substances chimiques sur le long terme. L'exposition pendant la grossesse, je reviens sur l'exposition par les animaux domestiques. Il y a certainement pas mal de femmes enceintes qui ont des animaux domestiques qui contaminent et qui se contaminent et qui contaminent leur lait après. Cette question-là n'a pas été traitée aujourd'hui. Il faut changer de modèle et cette dimension de la contamination chimique doit être aujourd'hui une priorité.
Alors une question de Cyril par le site mail de France Inter. Ce scandale alimentaire n'est pas le premier. Y a-t-il véritablement un contrôle sanitaire sérieux en France, Ingrid Kregel?
Alors, c'est une question qu'on est nombreux à se poser. Hein. Ce que le Fipronil met en avant, c'est qu'il y a différents niveaux de responsabilité. En tout cas, c'est notre point de vue chez Foodwatch. Le premier, quoi qu'on nous ait raconté après le scandale de la viande de cheval, eh bien, on peut se rendre compte, malheureusement, que le système européen de traçabilité ne fonctionne pas. Il a failli indubitablement, quoi qu'on nous ait dit. Deuxièmement, s'il y avait eu plus de contrôle au niveau national, puisqu'après, on passe à la compétence nationale, eh bien, on aurait identifié ce fipronil qui entrait sur le marché français. Donc, deuxième chose, si ces contrôles étaient accompagnés aussi de sanctions à la hauteur de la situation, eh bien, on n'en serait pas là. Troisième chose, nous posons la question quand même de la responsabilité des fabricants alimentaires, l'industrie agroalimentaire, mais aussi les distributeurs. Ils ont une responsabilité. On se souvient, avec la viande de cheval, qu'ils sont sortis finalement plus ou moins à bon compte. Ils ont joué les victimes et puis il n'y a pas eu de conséquences. Or, il y a quand même un certain nombre de réglementations qui les contraint à ne pas mettre sur le marché des produits interdits, fipronil, substance interdite, de potentiellement menacer la santé des consommateurs. Et puis trois, ils sont quand même contraints, obligés de respecter les réglementations européennes et nationales. Et là, on pose ouvertement la question, quid des responsabilités à un moment? Est-ce qu'ils vont, comme lors de la viande de cheval, s'en tirer à bon compte? On espère que non. On espère que cette fois-ci, on va poser les bonnes questions.
D'ailleurs, sur la viande de cheval, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, en Espagne, un nouveau scandale a été révélé. Et on retrouve l'homme, le Néerlandais, qui était à l'origine de l'affaire française.
C'est exactement le même trader qui était impliqué dans le scandale d'il y a 4 ans. En fait, il est parti en Espagne et il a relancé son business tranquillou avec des chevaux qui étaient impropres à la consommation quand même. Et puis, tout ce cheval a sillonné à nouveau une partie de l'Europe. S'est-il retrouvé dans nos assiettes? On aimerait bien le savoir.
Voilà, donc après les affaires continuent. Bruno Parmentier.
Alors, moi je fais le pari qu'il y aura de plus en plus de scandales sanitaires.
Pourquoi donc ?
Ça ne veut pas dire...
Ça fait peur ce que vous me dites d'un
Attendez,
coup.
Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de gens malhonnêtes. Ça veut dire que la police a plus de moyens pour trouver. Parce que vous savez, des gens qui vous ont vendu de la viande de cheval à la place de l'alouette, c'est vieux comme le monde, ça a des millénaires. On estime par exemple qu'aux États-Unis, le tiers des poissons qui sont vendus ne sont pas le poisson qui est marqué sur l'étiquette. Hein, pas le poisson avec la tête et la queue, mais bon, on vous vend du filet, c'est pas ça. Or, par exemple, dans le cheval, c'est parce que maintenant on peut faire des analyses génétiques qu'on a pu prendre a posteriori la lasagne, l'analyser et dire, bah tiens, c'est des gènes de chevaux, c'est pas des gènes de bœuf. Pourquoi il y a marqué bœuf? Avant, on pouvait pas puisqu'il y avait pas d'analyse génétique. Et donc, plus on va avoir d'armes pour analyser a posteriori les choses, plus on va découvrir qu'on vit dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours, il y a plein de gens malhonnêtes. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Le gars qui a changé l'étiquette cheval pour bœuf, on découvre que maintenant, au lieu d'être en troll, il est en Espagne et il continue. Et donc, des gens malhonnêtes, il y en a. Et donc, une des choses qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas dégarnir la police de l'alimentation. Et on s'est aperçu, par exemple, au moment de la lasagne, que par souci d'économie, du temps du quinquennat Sarkozy, on a baissé les crédits de la police de l'alimentation. Donc, je veux dire, la police et la justice, c'est indispensable dans un monde où il y a des truands et où on circule. Effectivement, on peut aller acheter des produits, les mettre dans sa voiture, les ramener de Roumanie. Bon, ben, c'est vrai, donc il faut qu'il y ait de la police.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Retour au standard du téléphone sonne, nous allons à Saintes retrouver Francis. Francis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'écoute avec attention cette émission sur l'alimentation. C'est vrai, vos auditeurs et vos invités ont répondu un peu à ma question, mais je vais être encore plus chauvin que ça. J'ai vu l'émission il y a quelques années. Alors imaginons que je suis un homme d'affaires. J'achète 10 000 poules que je fais tuer en Allemagne. Je les fais acheter menu en Hongrie. Je les fais reconditionner en Allemagne. Je les dispatche en France. Voilà. C'est un scandale, bien sûr, parce qu'en fait, les Français ne travaillent pas. Ma question est simple. Nous avons tout ce qu'il faut en France. Verrouillons pour toute l'Europe au niveau de la nourriture. Et nourrissons de nos produits français. Qu'en pensent vos invités?
Alors, mangeons et uniquement français pour plus de sécurité, Bruno Parmentier.
C'est le cas, attendez, c'est le cas pour les œufs. Hein. Les œufs, on produit à peu près autant d'œufs qu'on mange. Bon, et il y a toujours un truc marginal, c'est à peu près 8% de la consommation qu'on exporte, 8% de la consommation qu'on importe. Mais il faut se rendre compte aussi de nos contradictions. C'est que il y a encore 20 ou 30 ans, l'essentiel des œufs qu'on mangeait, on les achetait comme des œufs, et on les cuisinait. Et maintenant, 40% des œufs qui sont consommés par la population ne sont plus des œufs achetés en supermarché, mais des œufs dans les mayonnaises, dans les gâteaux, dans les pâtes, dans les plats tout préparés, dans les salades avec des... etc., etc. Et donc, de fait, on a maintenant de plus en plus d'achats de produits tout préparés, et effectivement, dans ces produits tout préparés, il y a plein de choses, les lignes s'allongent, et on contrôle beaucoup moins. Et donc, c'est quand même beaucoup mieux de se faire à manger soi-même chaque fois qu'on peut avec des produits qu'on achète soi-même.
Voilà. Ingrid Kragel.
Manger français, bah dans le cas du scandale du Fipronil, qu'est-ce qui nous permet de savoir à 100% que les élevages français ne sont pas concernés? On entend notamment, me semble-t-il, la présidente de la FNSEA dire que notre filière est absolument irréprochable. Et bah nous, on voudrait des preuves. Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui qu'aucun élevage sur tout le territoire français n'est concerné ou n'a, à son insu même, hein, on blâme personne pour l'instant, asperger ses poulaillers avec du Fipronil? On ne le sait pas. En fait. Donc voilà, malheureusement, nous ne recommandons pas nécessairement aux consommateurs de dire, bah voilà, détournez-vous des grands méchants hollandais et belges et tournez-vous vers la filière française. On ne le sait pas. Donc impossible aujourd'hui de l'affirmer. Deuxième chose, puisqu'on parle de consommer français, je vais revenir sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la fameuse opération Hobson qui est menée chaque année par Europol et Interpol avec les autorités de dizaines de pays dans le monde et qui traque la fraude alimentaire sur un petit laps de temps, quelques semaines dans toute l'année, donc pas tout au cours de l'année, fait des saisies et arrête des malfrats qui empruntent, je le rappelle, des réseaux de crimes organisés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces réseaux sont beaucoup plus juteux que le trafic de drogue, nous dit-on, ou même les faux médicaments. Donc en fait, il manque de sanctions. On parlait de police tout à l'heure, mais il faut quand même que ça soit suivi des faits. Les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives. Et quand on parle de français, bah écoutez, je vais vous donner quelques chiffres qui ont été révélés justement par cette opération Hobson qui sont tombées en avril dernier. Elle a lieu chaque année. On parle quand même de 650 litres de soude caustique versé dans des cuves de lait, ça c'est la France. 2 tonnes de porc vendus comme du canard, on parle de 100 kilos de viande périmée, 180 000 faux cubes de bouillon, hein, vous savez ces petits cubes qu'on a presque tous dans nos placards. Voilà, et sans parler des nombreuses conserves périmées de sardines par exemple, qui étaient allègrement réétiquetées au Portugal pour ensuite inonder le marché européen. Donc voilà, consommer français, oui, mais non, mais pas les yeux fermés.
Allez, on va à Lorient retrouver Thierry. Thierry, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est à vous.
Oui, bonsoir à tous. Oui, moi j'ai une question que je me pose en vous entendant, même deux. C'est comme nous, on est pris dans une pot de confiture à essayer de truander ou machin, un truc. Bon, on est puni, on a une amende, on est pénalisé, voilà. Les grandes sociétés font ce qu'elles veulent, elles sont protégées par les politiciens, par les lobbying, et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, de toute façon, ils ne sont pas pénalisés. Pourquoi on ne fait pas une loi, une fois qu'ils sont pris vraiment à truander, à avoir des amendes, mais pas une petite amende, 500 000, 1 million d'euros, de manière à ce qu'ils n'en recommencent plus. Et on leur retire leur licence à la rigueur de produits illicites comme ça, je ne sais pas, moi, c'est...
Alors on en pense
quoi ? Tout est fait pour qu'ils puissent continuer, quoi.
On en pense quoi chez Foodwatch ?
Bah on en pense que monsieur a raison. En fait, effectivement, là, on voit bien qu'en fait, pour l'instant, l'industrie agroalimentaire et les distributeurs ne sont pas contraints de nous dire la vérité. Et donc, peut-être qu'ils ont été impliqués, peut-être pas. Mais en tout cas, il est évident que les sanctions sont absolument insuffisantes. Et puis aussi, ont-ils fait les contrôles nécessaires ? Peuvent-ils nous prouver qu'on peut avoir confiance en eux ? Effectivement, il est quand même impensable que tous ces produits que je vous ai cités, qui sont entrés sur nos marchés français, donc dans nos assiettes, de manière frauduleuse, dans des volumes considérables, c'est bien parce qu'ils ont pris, ils ont trouvé acheteurs, donc demandeurs, donc potentiellement consommateurs. C'est un vrai problème, et je suis 100% d'accord avec monsieur.
Bruno Parmentier.
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit seulement la taille. Voyez, là, en l'occurrence, c'est une PME. C'est une boîte dirigée par deux néerlandais. Pareil, le trader néerlandais qui avait approvisionné Castelnaudary, c'était un gars. Hein. Donc, en l'occurrence, là, dans ces deux cas, la lasagne et l'œuf, c'est des PME. C'est des PME qui se mettent sur le marché et qui jonglent entre les failles. Et donc, faut pas toujours croire que les gros sont méchants, les petits sont gentils.
Là, je suis d'accord.
Il y a des gens méchants à toutes les tailles.
C'est vrai, oui.
Pour en venir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les industriels et le rapport, le lien que vous faisiez avec l'affaire des lasagnes à la viande de cheval. On se souvient qu'il y a une entreprise qui a très vite dit j'ai été alimenté par ce trader. En l'occurrence, on peut citer la marque, c'était Findus. Et les autres se sont engouffrés derrière pour dire, bah, moi aussi j'en ai eu. Est-ce que dans cette affaire, les industriels ne sont pas à attendre qu'il y en ait un qui se lâche, qui dise, moi j'en ai eu, pour pouvoir, pour pas être le premier, donner l'impression d'être le premier bonnet dans cette affaire?
Effectivement, on peut se poser la question. Chez Foodwatch, on a interpellé hein, les distributeurs et aussi les lobbies de l'industrie agroalimentaire représentée par Agnès. Il faut quand même avouer que c'est quand même silence radio pour l'instant. Il n'y en a pas pas un qui est sorti du lot pour dire « Ah oui, effectivement, peut-être que je serais concernée », parce qu'il y a quand même un risque réputationnel grand quand on voit les conséquences que ça peut avoir sur le business, le chiffre d'affaires, effectivement. Et puis, on parle d'un produit interdit. Même si on minimise les risques pour la santé, c'était interdit. Donc, ça peut nuire, effectivement, à la marque. Nous, on voudrait qu'ils sortent, de l'ombre et disent « Bah voilà, écoutez, là, nous, on a eu des manquements, mais on va améliorer les systèmes. Voilà les tests qu'on a faits. Voici les résultats. Voici pourquoi les consommateurs peuvent avoir confiance et continuer d'acheter nos produits ou pas. »
Alors, André Cicolella, on a une question par mail. J'aimerais que vous nous fassiez une réponse, mais une réponse courte, même si le sujet est compliqué, de Pascal, qui nous dit « Je souhaiterais savoir si le fipronil est toxique pour le fœtus. Ma femme est enceinte de 6 mois et nous avons mangé beaucoup d'œufs en Belgique. »
Oui, ça c'est effectivement, j'évoquais effectivement, le fœtus c'est effectivement et la période sensible. C'est pour ça que pour les perturbateurs endocriniens, on considère que c'est la protection de la période de la grossesse et de la petite enfance qu'il faut protéger aujourd'hui. Et là, je reviens moi sur ce que j'ai dit, je trouve anormal effectivement qu'aujourd'hui soit autorisé ce fipronil dans les produits à usage d'animal domestique, parce que c'est la source de contamination des femmes enceintes et des jeunes enfants. Et donc, j'ai vu effectivement l'avis de l'ANSES sur le sujet, je n'ai pas vu de réponse à cette question. Donc il faut répondre à cette question et faire une comparaison avec ce qui est dit sur la contamination par les œufs. Mais le problème de la protection de la grossesse et de la petite enfance est un problème central aujourd'hui en matière de sécurité sanitaire. Or, il n'est pas aujourd'hui pris suffisamment en compte. La preuve, c'est que les normes ne sont pas calculées par rapport à ça. Elles sont calculées sur le rab et on fait le calcul sur des expositions sur le long terme. On n'a pas pris en compte le fait de l'exposition pendant la grossesse.
Alors, une autre question aussi, c'est quid des poules traitées, enfin qui se retrouvaient dans les élevages où on a utilisé ce fipronil. Il y a, comme pour d'autres, l'abattage systématique, comme à l'époque de la grippe aviaire, Bruno Parmentier.
Ben, on aimerait bien savoir, voilà, parce que c'est des poules qui quelque part sont imbibées de fipronil, hein. Donc, moi, je n'ai pas lu, mais je ne vois pas tout, je n'ai rien lu à ce sujet. J'aimerais bien que ces poules, effectivement, ne se retrouvent pas dans un poulet rôti.
Oui, parce que dans les autres pays européens, on sait que les agences sanitaires font des tests aussi sur la viande, hein, sur la viande qui a été aspergée, effectivement, les poulets, les poules. Donc, on l'ignore pour l'instant.
Voilà, moi, j'ai une dernière question, puisque cette émission va s'achever. Ingrid Régol, demain, vous allez acheter des œufs?
Non, pour l'instant, on est très prudent, je ne vous le cache pas.
Bruno Parmentier, même question.
Oui, j'achète des œufs bio. Oui, et j'en achète. J'ai mangé un œuf coq ce matin.
Et André Cicolella, vous allez acheter des œufs demain?
Moi, je n'achète que des œufs bio. Voilà.
Voilà. Donc, c'était une ode aux œufs bio sur France Inter ce soir pour ce téléphone sonne. Merci beaucoup Merci. D'avoir participé à cette émission et je vous retrouve demain. Demain, nous parlerons d'un autre sujet, le vin avec le réchauffement climatique. Est-ce qu'on va assister à un déplacement de la carte viticole française?